7h57, Jacinthe Tervarel qui est en studio juste avant d'aller la rejoindre, les amis. On va aller voir ce qui se passe sur la route, mon cher Max, à la hauteur du pont Pierre-Laporte. Qu'est-ce que c'est réglé?
On avait un accident un petit peu plus tôt. Ça nous a été confié par texto. Pour l'instant, via le Québec 511, je n'ai pas de mise à jour là-dessus. Fait que n'hésitez jamais au 88-971-1021. Mais en effet, il y a un petit ralentissement encore là, pour ce qui est du pont. En 4 Sud, on avait une panne. C'est terminé. Et même quand tu roules vers Shannon, à cette heure, c'est rendu beau. Fait que tu peux maintenant circuler partout, librement, comme tu le veux bien, à part là, dans le secteur des ponts où il y a un peu d'attente pour la Porte-Nord.
Max, est-ce que tu peux revenir sur la nouvelle concernant Donald Trump, les républicains et les démocrates qui se posent des questions? Dans le cas des démocrates, bon, on parle de 70 démocrates et quelques républicains qui se posent la question sur la santé mentale de Donald Trump. On va se le dire, il n'y a personne ici qui est psychologue, personne ici qui est psychiatre. On dit que rien ne va plus pour ce qui est de sa santé mentale. Et là, on tente de vouloir amener le 25e amendement. Ça va être le premier sujet avec Jacinthe Tévarin.
Ouais, ben c'est plus de 70 démocrates qui disent s'inquiéter, entre autres, de l'état mental de Donald Trump en raison de ses menaces contre l'Iran. Particulièrement, bon, on sait, sur Truth Social, avait menacé de complètement éteindre une civilisation, proposait d'attaquer aussi les infrastructures civiles. Et donc, ces questionnements-là sur son état mental sont revenus dans les dernières heures. Tu l'as dit, là, c'est beaucoup de démocrates. Il y a une poignée de républicains, de commentateurs plus conservateurs aussi, qui commencent à pencher un peu vers ça, mais ça reste vaginal. Il faut dire que le recours au 25e amendement qui permettrait là, de peut-être tasser Trump, ça reste improbable. On aurait besoin de l'appui du vice-président J.D. Vance. On aurait besoin de la majorité du cabinet. Puis après ça, probablement d'un vote du Congrès aussi. Fait que, tu sais, ça reste, j'ai l'impression, un mouvement plus d'image en ce moment, là. Mais quand même, ça prend de l'ampleur.
Jacinthe Varel, salut!
Salut!
C'est drôle de voir les républicains, pas les républicains, mais les démocrates jouer dans ce double rôle-là, parce qu'on se posait des questions sur la santé mentale de Joe Biden, à savoir si au niveau cognitif, tout fonctionnait. Les démocrates nous disaient « Non, tout est beau, tout est beau, tout est beau! » Et là, tout d'un coup, les rôles s'inversent, c'est les républicains qui prennent le pouvoir avec Donald Trump. Et là, on se pose des questions sur sa santé mentale. Tu la trouves comment, cet épisode-là?
Quelle farce! Quelle farce! On est dans de la partisanerie, là, on le voit. D'ailleurs, ça a été demandé par des démocrates.
Ouais.
On joue un jeu facile à jouer parce qu'on vient de voir un président américain avant Donald Trump qui avait des difficultés d'élocution, des difficultés de mémoire, des difficultés de coordination physique. Donc, il y avait beaucoup de difficultés. Et là, on se dit, ça a tourné en remise en question de la santé cognitive de Joe Biden. Alors, profitons de cet outil-là pour le retourner contre Donald Trump. Et on sait que Donald Trump est étiqueté d'homme tellement imprévisible, tellement qui dit tout et son contraire, que c'est facile de semer le doute par rapport à ça.
Est-ce que on a des raisons de se poser ces questions-là par rapport au dernier dernier tweet de Donald Trump concernant l'anéantissement d'une civilisation entière? Ça, c'est pas présidentiel, ça, Jacinthe. On l'accepte parce que c'est Donald Trump. Je dis « on », moi je trouve que c'est complètement stupide de s'exprimer comme ça, mais on l'accepte parce que c'est Donald Trump. Mais si Mark Carney avait dit une affaire comme ça, ou si François Legault avait dit une affaire comme ça, on dirait « mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le cas? Y a-t-il un ACV? Qu'est-ce qui se passe? » Là, c'est Trump. On semble l'accepter, du moins pour une certaine partie de la population.
Ce qui arrive, c'est qu'on est dans un contexte et on sort souvent les éléments de leur contexte. On sort souvent aussi l'ensemble du portrait pour mettre la lumière sur des mots ou des phrases ou une action de Donald Trump. Là, tout de suite, je ne vais pas dire que je suis d'accord avec ça. Puis si j'avais été à sa conseillère en communication, j'aurais dit « Ah oui, laisse ça de même ton texte, c'est
ça
très bon. »
Ça a du bon sens.
Sauf que il reste que on juge à l'échelle de notre vie à nous, à l'échelle de notre expérience humaine, on juge des éléments qui dépassent complètement notre capacité aussi quand même de compréhension globale et complète. Et je suis pas en train de dire que si on comprenait, on utiliserait les mêmes mots non plus. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il reste que Donald Trump essaie de faire bouger une machine terroriste, essaie de faire bouger des acteurs qui ont qui fonctionne sur un autre système complètement que le nôtre. Il essaie de faire bouger une équation dans laquelle il y a plusieurs parties prenantes extrémistes, des parties prenantes terroristes, des parties prenantes qui sont prêtes à la vie, à la mort, à aller jusqu'au bout de leur idée. Alors, dans ces circonstances-là, ben un acteur qui a l'air fou, complètement détraqué, qui a l'air aussi fou, aussi extrémiste que ses adversaires, parfois, c'est ce que ça prend pour faire bouger les choses.
Mais visiblement, ça n'a pas fonctionné parce que les Iraniens ont encore une fois le gros bout du bâton. Les Américains n'ont rien gagné.
Non, je m'excuse, ça a fonctionné. La journée de cette menace-là, il y a eu une entente de cesser le feu pour 2 semaines. Ça a bougé.
Oui, mais comment ça va, là, dans le détroit d'Hormuz?
Non, mais ça a bougé.
L'objectif, c'était de faire passer du pétrole.
L'objectif, c'est que ça bouge, ça a bougé. L'objectif, c'était qu'avant la tombée de l'ultimatum qui était ce soir-là, le soir même où il a écrit ça, il y avait un ultimatum, il fallait s'entendre d'ici la fin de cette journée-là. Et d'ici la fin de cette journée-là, il y a effectivement eu une entente de cesser le feu qui n'a pas été respectée. Puis là, on voit que ça se complique parce que ça s'est produit et négocié très rapidement.
Parce qu'on est passé de « je vais anéantir une civilisation entière » à « je vous donne encore 2 semaines ». J'ai l'impression qu'on a perdu un peu du terrain, puis on se rend compte que les Iraniens...
C'est pas je vous donne encore 2 semaines, c'est qu'on s'est entendu, toutes les parties se sont entendues pour un cessez-le-feu, Yannick.
Mais ça
c'est
fonctionne
que,
pas.
C'est majeur, là, quand même.
Ben, Israël n'a pas accepté une partie de cette entente-là. Ça fonctionne pas. Les Iraniens ont le gros bout du bâton avec le détroit d'Hormuz. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, le prix du pétrole est encore assez élevé. Aux États-Unis, c'est la panique totale. Puis imaginez-vous, le gaz est moins cher là-bas. Imaginez-vous ici ce que c'est. Ça va avoir un impact sur l'économie.
Absolument.
C'est les Iraniens qui ont le gros bout du bâton. Malgré le fait qu'ils se sont fait bombarder à n'en plus finir puis que toutes les têtes dirigeantes successivement se sont fait tuer, à l'heure actuelle, les Américains n'ont rien gagné, puis Israël non plus.
Absolument que les choses...
Pourquoi
le cessez-le-feu n'a pas été respecté,
pourquoi
c'est
on
vrai.
Y a été là-bas?
Bien, il y a un angle mort hein, dans cette situation-là qu'on parle pas beaucoup ici.
Je le vois pas.
Bien, il y a plusieurs pays du Golfe Persique qui sont en soutien à Israël, qui sont en soutien aux États-Unis. Là. Ça, on n'en parle pas ici. Là. C'est notre angle mort. Là. On essaie bien de voir... On simplifie beaucoup un jeu où il y a énormément d'acteurs, mais l'Arabie saoudite, le Bahreïn, les Émirats arabes unis, même le Liban, officiellement, est en soutien, parce que c'est pas le Liban qu'on l'attaque. Ça aussi, c'est important de le mentionner. On entend beaucoup là, sur nos ondes télé-radio qu'Israël attaque le Liban. C'est pas Israël attaque le Liban. Israël s'attaque au Hezbollah, qui est une formation terroriste dont le Liban veut se débarrasser. Et est-ce qu'on connaît l'appui du Liban par rapport aux frappes d'Israël sur Hezbollah? Ah, silence radio, hein? On le sait pas. On sait pas qu'est-ce que le Liban, officiellement, dans ses canaux diplomatiques, dit à Israël, dit aux États-Unis. Comment le Liban, officiellement, officieusement, se prononce là-dessus? C'est là où je dis, on est face à une équation avec énormément de variables, des variables dont certaines sont extrémistes. Et pour faire bouger les choses, parfois, il faut être aussi brutal. Je vous ramène à Donald Trump, lors de son premier mandat, qui avait fait face à Kim Jong-un de la Corée du Nord et qui avait dit « Je comprends bien là, que tu as l'arme nucléaire, là, mais je vais juste te dire que moi aussi, j'ai le bouton rouge. Puis crée-moi que je vais peser dessus avant que toi, tu ailles le temps de peser sur ton bouton rouge. » C'était une menace nucléaire que Donald Trump a faite à l'égard de la Corée du Nord.
Et après ça, ils se sont rencontrés.
À qui il s'adressait? Il s'adressait à un fou. Puis pour c'est une stratégie parmi tant d'autres. C'est correct que 99,9% des gens qui nous écoutent ce matin disent « ben moi, je n'aurais pas utilisé cette stratégie-là ». Soit, mais vous n'êtes pas dans le siège du président des États-Unis d'Amérique non plus. Nous ne sommes pas dans son siège non plus. Nous ne possédons pas les informations du renseignement confidentiel, des rapports de toutes les agences de renseignement et des diplomates.
Est-ce que c'est si dur que ça de nous expliquer pourquoi on a tenté d'envahir l'Iran? Ça doit être assez simple parce qu'on s'est trompé avec l'Irak. Là. J'ai l'impression qu'on se trompe aussi avec l'Iran. Puis qu'on n'aura pas le dessus comme on n'a finalement pas eu le dessus sur l'Irak.
Bien, c'est le genre de leçon qu'on va pouvoir tirer avec le temps. C'est le temps qui va nous le dire parce qu'il reste que à travers ça, on s'attaque à l'économie de la Chine parce que qui est pénalisé le plus de la paralysie des navires remplis de pétrole et remplis de produits pétroliers dans le Golfe Persique? C'est principalement le Japon, la Chine, donc les pays d'Asie. Donc, il y a aussi en arrière-fond tout ça d'autres conflits, d'autres alliances. la Russie est un proche allié de l'Iran. On sait qu'en ce moment, on s'est rangé, quand je dis on, c'est l'OTAN, hein, on s'est rangé du côté de l'Ukraine sur le conflit Ukraine et Russie. Bien, on est du côté de l'Ukraine, donc on est contre la Russie sur ce plan-là de conflit. Mais quand on arrive sur le plan du conflit en Iran, où l'Iran est fourni en drones russes, est fourni en intelligence chinoise, on sait que la Chine est impliquée à différents niveaux, plus cachés, plus obscurs, mais ça a été démontré par des experts des forces militaires que la Chine est derrière plusieurs capacités militaires d'Iran et de renseignement. Ben à ce moment-là, c'est difficile à courte vue comme ça, ici dans le moment, de dire ben voici pourquoi. Quiconque tente une explication sans mettre en lumière ces couches de fond-là de conflit, ces aides-là de l'Iran, de la Russie, pardon, en Iran et de la Chine, des tentatives multiples que Donald Trump fait pour affaiblir la Chine, c'est encore là cette intervention militaire. Oui, elle vise à affaiblir des groupes terroristes islamiques qui sont nourris par l'Iran, parce que l'Iran, je le rappelle, il y a des gens qui nous écoutent qui le savent, mais l'Iran, le régime islamique, nourrit beaucoup de cellules islamiques terroristes dans différents pays du Golfe Persique. C'est une des raisons pour laquelle les pays du Golfe Persique sont contents ou se trouvent des avantages à l'intervention des États-Unis, parce qu'on veut affaiblir ces mouvements-là. Mais il y a aussi l'affaiblissement de l'économie chinoise sur différents plans, et ça fait partie de la carte mondiale des points d'affaiblissement qu'on peut avoir une main vraiment très, très solide sur la Chine.
Tu connais Jean-François Caron?
Oui.
Il y a eu une réflexion sur son Facebook que j'ai trouvé formidable. En fait, je connaissais le Trump Derangement Syndrome, mm-hmm. qui fait en sorte que tout ce que Trump fait systématiquement, c'est on n'est pas capable de l'apprécier, puis on le traite de maléfique, de fasciste, de fou ou je ne sais quoi d'autre. Et il m'a appris que le Trump Worship Syndrome, ça existait aussi. Ça fait en sorte que tout ce que fait ou dit Trump relève du génie et qu'il voit dans toute personne qui ose le critiquer une personne malhonnête et qui mérite d'être traitée de tous les noms. Je pense que dans les deux cas, quand on entend parler de ces syndromes-là, là, à droite et à gauche, il faut essayer d'être dans le milieu et d'être le plus honnête possible mm-hmm. là, quand ça concerne les États-Unis. Mais tu vois, les deux syndromes, je connaissais juste le Trump Derangement Syndrome qui est assez intense sur les réseaux sociaux, là, des gens qui déteste Trump au point de dire que c'est Adolf Hitler. Mais l'autre côté, les gens qui adulent constamment ce que fait Donald Trump, je ne savais pas que ça existait non plus.
Bien, je l'ai lu, cette comparaison-là, mais il faut faire attention aussi de ne pas tomber dans le piège de penser que parce qu'on ne blâme pas vigoureusement Donald Trump, on est nécessairement en adoration. Ce que je viens de faire ce matin, c'est pas du soutien à Donald Trump.
L'analyse.
Ce que je viens de faire ce matin non plus, c'est pas de dire que c'est un génie, c'est pas de dire que c'est extraordinaire, c'est pas de dire que je ferais la même chose à sa place. C'est simplement de mettre en lumière qu'il y a des cartes qu'on connaît pas, des cartes importantes, des cartes fondamentales, et que peut-être que si on était dans ce siège-là, on comprendrait davantage. Peut-être qu'on n'irait pas jusqu'à avoir son style. Puis l'autre chose, c'est que moi, je distingue beaucoup la forme, la forme du fond, le style des intentions aussi. Moi, un style spectaculaire, populiste, proche du peuple, proche du monde, ça m'empêche pas, ça m'aveugle pas d'aller voir au-delà de ça. Alors, je m'arrête pas à dire, il est vulgaire, il est impoli, voyons donc, ça se fait pas, ça n'a pas de classe, ça n'a pas de savoir-vivre. Ben oui,
mais tu peux les deux peuvent se faire aussi.
Ben, je pourrais, mais il y a tellement de monde qui le font que j'irai pas répéter les mêmes types d'analyses.
C'est la raison
là.
Pour laquelle tu es avec nous chaque vendredi, tu as ta propre couleur. Comment trouves-tu la sortie de Melania Trump? Moi, je l'adore, Melania Trump, là, en passant, c'est la plus belle madame, la première dame des États-Unis qu'on a jamais eue. Comment tu as trouvé sa sortie en niant participation dans les crimes de Jeffrey Epstein? Pourquoi elle a fait ça? Est-ce qu'on craignait une nouvelle qui allait sortir? Est-ce qu'on voulait envoyer peut-être l'attention ailleurs?
Moi aussi, j'ai été surprise de sa sortie parce que, oui, il y a des allégations à gauche, à droite, mais ça semblait être plutôt des mouvements marginaux.
Mais c'est quoi ces allégations-là? Qu'elle aurait participé à des crimes, que Trump l'aurait rencontré sur cette île-là?
Tout est bon pour détruire et démolir la crédibilité du couple à la Maison-Blanche.
Touchez pas à Mélania.
Tout est bon. Non, mais toutes les stratégies vont être déployées, ont été déployées et seront déployées pour tenter de décrédibiliser le couple à la Maison-Blanche. On le voit, ça s'opère depuis très longtemps. Alors, ça se continue. Probablement qu'elle a été très... proactive dans sa réaction parce que, bon, est-ce qu'elle a été vraiment personnellement très blessée par ça? Parce qu'on est habitué quand même d'avoir des attaques beaucoup plus virulentes à l'endroit de son conjoint qu'à son endroit à elle. Donc, est-ce qu'elle s'est dit, non, mais moi, je vais défaire ça tout de suite parce que je me sens attaquée dans quelque chose qui est complètement injuste? Je le sais pas, mais je trouve ça pertinent de faire des sorties proactives comme ça, de ne pas attendre que les dégâts soient plus... qu'ils soient irrécupérables. Elle a tenté de tout de suite mettre un couvercle sur la marmite.
Parce que très peu de journalistes savaient qu'elle allait sortir sur ce sujet-là. Ouais. Puis là, on se demandait, écoutons, y a-t-il quelque chose qui va sortir? Puis encore ce matin, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, il n'y a rien qui touche Melania Trump. Donc, est-ce que ça aurait été une stratégie de la Maison-Blanche de tenter d'amener l'attention ailleurs?
Je sais pas.
Je sais pas.
Je sais pas. Je ne pense pas, mais quand on analyse des situations complexes, comme je me répète à le dire depuis le début, d'avoir des certitudes, je trouve ça très présomptueux. Quand j'entends des analystes qui ont des certitudes, je viens tout le temps ben nerveuse. Alors, j'aurais pas de certitude sur « c'était une stratégie, voyons donc ». Ou « non, ça n'était pas une, elle était blessée, c'est une femme intègre qui soigne beaucoup son image depuis toujours et elle veut pas faire partie des attaques ». Bon, les deux versions sont possibles, quelque chose entre les deux aussi sont possibles. Tu sais, on ne peut pas prêter des intentions aux gens. Prêter des intentions, ça se fait beaucoup en analyse politique. J'en profite pour sensibiliser nos auditeurs à ça. Beaucoup de chroniqueurs, d'analystes, de journalistes vont prêter des intentions à nos politiciens. On ne le sait pas. On le sait pas. C'est une erreur qu'on fait beaucoup dans nos relations interpersonnelles aussi, à notre échelle humaine.
Il y a une décision du conseil de presse sur Rebel News.
Mon chum a dit ci à cause de ça, ma blonde a dit ci à cause de ça. On sait bien, elle veut ci, elle veut ça. Elle veut ci, elle veut ça.
Il y a une décision du conseil de presse sur Rebel News qui a été rendue. T'en as-tu entendu parler?
Ben oui.
On considère que Rebel News n'est pas un vrai média parce qu'il se positionne. La plupart des journalistes à Radio-Canada, on sait dans quel camp ils sont.
Les médias ont tous des journalistes puis ont tous des chroniqueurs.
Ouais.
Puis les chroniqueurs, ils se positionnent.
Oui, mais il y a des journalistes qui sont très positionnés. Là, mais...
Ah, ben oui, dans l'angle qu'ils vont apporter.
Le journaliste de TVA qui est à Maison-Blanche, là, tu sais de quel bord il est.
Ouais,
il est certainement pas du bord de Donald Trump.
Je pense que la tendresse, lui, est plus considéré comme un chroniqueur et non pas un journaliste. Ben, un journaliste, ça va être quelqu'un sur le terrain.
Ben, il pose les questions à Maison-Blanche. Il pose les questions.
Ben non, ben, c'est ça. La minute que...
Ouais,
non, mais
c'est vrai.
On est tous humains. On a tous grandi dans un milieu socio-économique X, avec d'un portefeuille Y. On est allé à l'école publique, privée, on a amis, on vote, on est tous humains. Donc, même si le journaliste a un devoir de réserve, le choix des mots, le choix des questions, le choix des angles, sur quoi on pose des questions, sur quoi on passe qu'on va mettre en lumière dans nos reportages, c'est rien que du biais.
J'ai été à l'hôtel de ville pendant 2 ans là, à couvrir les points de presse. J'étais capable de dire qui est pour le tramway, qui est contre. Qui est pour le troisième lien, qui est contre. Je vais prendre ces deux projets-là parce que c'est facile. Là. Mais pour plein d'autres dossiers, juste par les questions qui sont posées.
Ben oui. C'est pour ça que ça prend une panoplie d'individus.
Oui.
C'est pour ça que ça prend une pluralité des voix. Comme ça, plus on a de gens, moins on concentre le message entre les mains de quelques individus. Mais plus on a une variété d'angles couverts et plus on a une variété de points de vue. Sinon, quand c'est entre les mains de quelques-uns, on est humain aussi. Fait qu'on aime ça travailler avec nos amis. Nos amis, souvent, ils pensent un peu comme nous.
J'adore. Ben, moi, je pense pas tout le temps comme Max. Jeff, il pense pas tout le temps comme moi.
Nous, on est collègues, pas amis.
C'est exact. C'est important de faire la différence.
Que je te vois essayer de me faire une demande d'amis.
Ben oui, c'est ça. C'est fini.
Je
veux t'entendre sur les transfuges. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'un député dise, tu sais quoi, moi, je suis un libéral, je m'en vais indépendant jusqu'à la fin de mon mandat. Puis par la suite, aux prochaines élections, je me présenterai sous une autre bannière. J'ai de la misère avec les transfuges qui peuvent faire en sorte qu'on va faire un délit de démocratie, c'est-à-dire la population a décidé que ça allait être un gouvernement minoritaire, puis parce que toi, tu changes de camp, bien là, tu peux inverser ça puis te faire en sorte que le gouvernement devienne majoritaire. Qu'est-ce que tu penses de la situation des transfuges? Puis, y a-tu moyen de changer ça dans la loi?
Bien, ça va presser qu'on change ça. Parce que franchement, quand on est rendu... Je suis d'accord avec toi. D'être mal à l'aise avec sa formation politique ou d'avoir un conflit avec le leader de sa formation politique et dire « je claque la porte, je sors du parti, je m'en vais comme indépendant », ça se respecte. C'est une position qui se respecte tout à fait. Mais de changer de parti, c'est que tu amènes tous les électeurs qui ont voté pour toi et tu les amènes dans un autre parti. Et ça, pour moi, il y a quelque chose d'immoral et de non-éthique là-dedans. Parce que c'est très prétentieux de penser que les gens ont voté pour toi, Yannick Marceau, point, à la ligne, là. Peu importe, Yannick, avec qui tu te présentes, moi, je vote pour toi, c'est toi que j'aime, là. T'es Québec solidaire, t'es conservateur, t'es libéral, t'es PQ, c'est toi que je veux. Voyons
donc. Moi, on dit que j'aimerais ça qu'une femme me parle demain.
Non, mais il n'y a pas de ça en politique. Non. On incarne une pensée, un programme, ouais. Un mouvement. Ouais. On incarne
quand il y a eu la vague
un allié
orange,
de notre chef. Ben
quand
oui,
il y a eu la vague orange,
c'était
là,
pour Jack Layton.
Sans Zarine la tendresse, là. Je veux dire, la madame étudie en littérature russe. Mm-hmm. Elle se présente pour être bénévole au NPD. Finalement, on dit, hey, tu sais quoi, on n'a plus besoin de bénévole. On n'a pas de candidat. Tu pourrais être candidate. Pouf, elle est élue. Mm. Les gens n'ont pas voté pour elle. Les gens ont voté pour Jack Layton, pour le programme du NPD.
Mais de toute façon, il y a beaucoup de gens aussi qui votent pour le chef.
Ben oui.
Fait que
ben
si tu te chicanes avec le chef, c'est correct. Tu as le droit d'avoir des désaccords. Mais oublie jamais que si tu étais élu, parce que le chef était là.
Ben
là.
Oui.
Peut-être ça explique pourquoi, là, je fais une parenthèse, ça explique pourquoi les gens autour de la CAQ sont restés très soudés à François Legault.
Ouais.
Il était pas niaiseux. Il disait, mon 8 ans en politique au pouvoir, là, c'est lui qui me l'a donné.
Ben oui, absolument. Puis c'est pas juste une question d'être redevable envers le chef. C'est comme ça que la politique fonctionne au Québec et au Canada.
Ben oui.
C'est une profonde injustice à l'endroit des électeurs, d'abord et avant tout, de ces transfuges-là qui décident d'aller les représenter, mais sous une autre bannière. Et là, ben, s'ajoute en plus le fait qu'on va tomber en gouvernement majoritaire grâce à ces transfuges-là. Il y a quelque chose de vraiment vicieux dans notre système.
Ouais.
Parce que Mark Carney, qui aurait pu être contraint de repartir en élection dans les prochains mois ou dans la prochaine année, eh bien là, il s'assure d'une confortable majorité pour 3 ans supplémentaires. C'est majeur comme changement.
Parce qu'il y a 3 partiels, dont 2 comtés qui vont nécessairement être libérales. Donc, est-ce que ça signifie la fin de Pierre Poilievre?
Non, j'y vois encore une autre opportunité. J'y vois encore une autre opportunité pour ses détracteurs parce qu'il y a un mouvement, particulièrement au Québec, anti-Poilievre. Il est surtout au Québec, ce mouvement-là. On l'observe moins ailleurs dans le Canada anglais. Je pense que c'est une autre opportunité pour les détracteurs de Pierre Poilievre de soulever des enjeux sur son leadership, des enjeux sur son avenir politique. Mais il a réussi avec un beau vote de leadership lors du dernier congrès du Parti conservateur du Canada. Certains diront oui, mais si le congrès avait eu lieu au Québec, son pourcentage aurait été plus faible. Non. On a un problème au Québec avec les députés conservateurs. La majorité soutenait Jean Charest dans la course à la chefferie et n'ont jamais décroché.
Exact.
Hein? Puis la majorité de ces députés-là, conservateurs au Québec, ben oui, ils pourraient peut-être être libéraux. T'sais, c'est pas des conservateurs conservateurs aussi francs que... tous les mouvements politiques ont un spectre. Ouais. Hein?
Qui pourrait challenger Pierre Poilievre? Il n'y en a pas actuellement. Moi, je vois Caroline Mulroney, je vois Mark Mulroney, le fils. Je pense qu'il est avocat de formation qui s'intéresse beaucoup à la politique. Daniel Smith, pourrais-tu s'intéresser à cette job-là? Doug Ford, pourrais-tu s'intéresser à cette job-là?
Daniel Smith est confortable dans sa posture. Doug Ford a gagné avec une belle majorité aussi en Ontario. Déjà là, tu nommes des noms qu'on aurait des partis conservateurs complètement différents. Doug Ford, ça serait le Jean Charest du Parti conservateur. C'est quand même plus un libéral qu'un conservateur pur, Doug Ford, si on le compare, par exemple, à une Daniel Smith qui incarne beaucoup plus, avec beaucoup plus de précision et de détail, un mouvement, moi j'appelle ça un conservateur pur et dur. Donc déjà là, on serait face à des alternatives différentes qui incarneraient complètement des visions différentes. Dans le spectre du conservatisme qui, souvent, au Canada, s'en va pas mal proche des libéraux.
Fait que selon toi, c'est pas la fin de Pierre Poilievre. Si on part pour un 4 ans là, de gouvernement libéral.
Non, je pense pas. Au contraire, même, parce que quel cadeau pareil pour lui. Ça va lui donner 3 ans d'un gouvernement majoritaire fort pour monter une équipe encore plus forte. On le voit ici au Québec, on a Gabriel Hardy qui se fait voir de plus en plus sur la scène nationale, qui est fort talentueux.
Même dans une foule,
talentueux.
Il se fait voir.
Ah, absolument. Ouais.
Mais tu parles du Québec. Penses-tu qu'il pourrait avoir un transfert? Juste Québec, il n'y en a pas encore eu. T'sais, tu disais la majorité était pour Jean Charest. Ouais. C'est ça, moi aussi, j'ai entendu une rumeur. C'est pour ça que je te pose la question.
Ça toucherait qui, cette rumeur-là?
Un député du Québec.
Moi, ce que j'ai entendu, c'est un député qui est pas loin d'ici.
Paulus?
Ouais. Non, Paulus, c'est le lieutenant. Il a toujours été derrière Poilievre.
OK. Ce serait qui? Gabardi? Non.
Ben non.
Ce serait qui?
Réfléchis, là. Un député qui est pas loin
là,
d'ici.
Vous savez de vous avez de l'information, puis vous la donnez pas.
Non, mais réfléchis.
C'est quoi les rumeurs?
Un député de la Rive-Nord qui est pas loin d'ici.
Ouais.
Qui avait appuyé Jean Charest, qui avant était le lieutenant du Québec pour les conservateurs.
Qui ça?
Réfléchis, là, ta TV, là, déjà fait
GD.
Des trucs, là.
GD, je sais pas, c'est qui ça?
C'est ça, GD?
Ben, je vous laisse tirer vos propres conclusions, moi, je t'ai donné les indices.
C'est vrai, tabarouette. Tu gardes ça pour l'émission du midi?
Non, pas toutes.
Jacinthe Varel, c'est toujours un plaisir.
Ben oui.
À vendredi prochain.
À vendredi prochain.
Un super de beau week-end. On fait une courte pause. Quelqu'un qui me dit Deltel. Oh, ouais!
Ben, moi, j'ai juste mis des indices. C'est comme. Comment qu'on appelle ça, là?
Ouais.
Chasse au trésor.
Mais Gérard est tellement aimé. Il est aimé. Ça va fonctionner sous la bannière libérale.
Non, mais moi, j'ai des bonnes discussions. Je suis bien branché quand même.
Ben, je sais que tu es mieux branché que moi.
Puis, semble-t-il qu'il y a quelques députés conservateurs, même au Québec, qui songent à traverser la Chambre.
Ouais.
Ça me surprend pas. Il y a des gens qui n'ont jamais décroché de la course au leadership de Jean Charest. Il y a des gens qui ne sont pas derrière Poilievre. Ça paraît depuis très longtemps. Mm-hmm. Et puis, ils songent. Est-ce qu'ils vont faire la traversée maintenant? L'autre chose aussi, c'est que Mark Carney, une fois qu'il y a son gouvernement majoritaire, ça peut être confortable d'avoir 2-3 députés de plus pour avoir une plus forte majorité au cas qu'il y a des absences dans les votes. Mais il reste que même lui, à un moment donné, de quoi a-t-il l'air? Prêt à prendre n'importe qui
en tout cas, cette endossé... Cette semaine avec Marilyn Gledou, là, il a eu l'oreille. Excuse-moi, là, mais t'sais, l'élastique est bien trop étiré, là.
Ben, ça lui enlève beaucoup de crédibilité à lui comme leader. Lui comme leader et comme chef, ça enlève énormément de crédibilité. On n'en a pas beaucoup parlé, mais d'être prêt à prendre n'importe qui a endossé d'autres propositions qui ne sont pas alignées avec le gouvernement. Ben oui, puis qui adressait des critiques acerbes à son endroit,
Jacinthe Varel. Gros merci, puis à vendredi prochain.
Bonne fin de semaine.
Salut, bye-bye. Sur la route, Max.
Ça roule.
Ça roule. C'est important de dire que dimanche, il y a une émission spéciale sur nos ondes.
OK, oui. Émission spéciale au niveau de l'élection d'un nouveau chef ou une nouvelle chef à la CAQ. Donc, un nouveau premier ministre ou une nouvelle première ministre. C'est à compter de 15 heures. C'est avec Antonine Iaccarini, moi-même, Jeff Fortin et Mathias Turcotte qui va être à Drummondville dans le congrès de la CAQ.
Voilà. Merci beaucoup. On revient.
Salut.